Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, c'est l'anniversaire de la naissance de Charles Dubos, l'un des grands écrivains critiques littéraires, critiques dans tous les domaines, car rien ne lui était étranger. C'était un homme d'une immense culture qui est mort en 1939 et qui était né donc le 27 octobre 1882. Dommage qu'il soit un peu oublié de nos jours, car c'est vraiment un grand écrivain, et c'est vraiment un homme d'une très grande envergure. Je suis heureux de lui consacrer cette émission. Quand j'étais jeune, on lisait Charles Dubos avec beaucoup de ravissement. Il est donc né à Paris, le 27 octobre 1882, il y a 115 ans aujourd'hui. Son père, Auguste Dubos, avait épousé une Anglaise, Miss Johnston. C'était lui-même, M. Dubos, son père, il était le fils d'une Polonaise née de Lasca. Charles Dubos, lui donc, reçoit une éducation chrétienne, des ascendants polonais, n'est-ce pas? À l'école, il reçoit une solide formation morale et intellectuelle, comme on l'a donné, évidemment, à la fin du siècle dernier, dans certaines institutions importantes à Paris. Parce qu'il a suivi les cours à l'école Gerson, il est allé au lycée Janson-de-Sailly, etc. La vie, alors, était plutôt douce pour lui, parce qu'il était assuré de suffisamment d'argent, de ressources suffisantes. Mais ce ne sera pas comme ça tout le temps de sa vie, loin de là. On l'appelait facilement Charlie, étant donné que sa mère était anglaise et qu'il parlait couramment l'anglais. Alors, comme je vous ai dit, il avait un esprit universel. Très jeune, il s'est passionné de peinture, de littérature, de musique. Puis il dirige même ses études de ce côté-là. Et avant même son service militaire, il a, tout jeune, déjà visité Venise. Il connaît Venise, il y a rencontré des gens importants. Et c'est pour lui un enchantement, hein. Il rêve d'écrire une thèse sur Botticelli, ce grand peintre. C'est un enthousiaste de Ruskin, il a la joie, à un moment donné, de travailler à l'université d'Oxford, tout jeune encore. En même temps que, grâce à son grand-père Johnston, le père de sa mère, évidemment, qui est directeur de la Bank of England. Alors, il pénètre dans les milieux lettrés cultivés d'Angleterre. Il y a une jeunesse vraiment merveilleuse, on peut dire. Puis il fait ensuite un long séjour à Berlin, car il parlait l'allemand couramment. Il vit là en contact avec des représentants les plus éminents de la pensée allemande. Il manque pas d'aller aussi, évidemment, à Bayreuth. La musique de Wagner l'enchante. Finalement, libéré de la caserne, là, du service militaire, il va passer de longs mois à Florence, en Italie, évidemment. Et là, en même temps qu'il fréquente, on pourrait dire, l'élite internationale, il poursuit ardemment ses études d'art, de plus en plus épris, comme il dit, de cette beauté florentine, à laquelle, plus qu'aucune autre beauté de main d'homme, il appartiendra dès lors. Il écrit ça en 1936, alors qu'il est déjà à la veille de sa mort, il va mourir en 1939. Rentré à Paris, donc jeune, parlant couramment l'anglais, l'allemand, l'italien, il peut maintenant se consacrer à cette carrière littéraire. Ses goûts le portent vers ça. Et d'ailleurs, Paul Bourget, qui est un grand ami de ses parents et qui est un écrivain bien plus intéressant, surtout un critique beaucoup plus intéressant qu'on veut le dire aujourd'hui. Paul Bourget, on méprise, mais on ne devrait pas mépriser à ce point-là. C'était un homme d'une bonne culture. Donc, c'est un ami de ses parents. Il pousse Charles Dubos du côté de la carrière littéraire et pour ses débuts, il publie quelques articles dans la Gazette des Beaux-Arts, puis ses premiers essais ne passent pas inaperçus, heureusement. En cette période de jeunesse, il reste fidèle aux habitudes religieuses de son enfance. Et c'est pas sans émotion qu'il assiste le 21 novembre 1906 à la messe célébrée pour les noces d'argent de ses parents, qui sont vraiment chrétiens. L'année suivante, le 7 février 1907, à 24 ans, Charles Dubos épouse Juliette Siry, S-I-R-Y. C'est la sœur d'un de ses meilleurs amis, qui a été aussi son camarade de régiment. puis connaîtra avec elle le bonheur, vraiment un bonheur conjugal remarquable pour toujours. Il s'amuse à l'appeler Zézette, étrange surnom, ou bien plus simplement Zed. Et elle va être pour son mari l'associée, celle avec qui on partage toutes les pensées, les joies, aussi bien que les douleurs, parce qu'ils vont devenir, il va devenir malade et pauvre. Et c'est celle qui va l'assister dans son long calvaire de souffrance. Celle aussi qui, lorsqu'il sera disparu en 1939, va tout faire pour exalter sa mémoire, puis le faire connaître davantage. Ils sont installés rue de la Tour, à proximité du bois de Boulogne à Paris. C'est très joli, là. Et le jeune ménage possède une fortune, heureusement, qui le met à l'abri du besoin. Alors on mène jusqu'à la guerre 14-18, une vie plutôt large, plutôt douce aussi. On reçoit, on sort. On reste étranger à rien de ce qui se fait. Et puis, dans ces années d'avant 1914, on goûte au charme et à la douceur de la vie parisienne. Et depuis 1908, toutefois, Charles Dubos a, sur les conseils de l'abbé Munier, il faudrait que je vous parle de lui, cet abbé Munier qui a eu un grand rayonnement au début du siècle, d'un prêtre éminent qui a contribué au retour à vie, à Dieu de beaucoup d'intellectuels. Bien sûr, ses conseils, il a commencé la rédaction de son journal, qui aura 7 tomes. Et un journal extraordinaire. C'est un des journaux, là, un journal personnel, vous savez, les plus remarquables qui soient, à mon avis. Très bien écrit et profond. Alors, il écrit à chaque soir. Il note souvent au crayon d'une écriture presque illisible les moindres détails de son existence. Et puis, il fait de ses petits cahiers gris les confidences de ses pensées les plus intimes. Et nous voyons ainsi que, même s'il est absorbé par ses préoccupations d'art, par ses études de littérature, ou par sa vie mondaine, puis par les concerts, quoi, il n'oublie pas Dieu. D'ailleurs, plus que lui, sa femme reste profondément chrétienne. Avec elle, il s'enthousiasme pour un temps pour Bossuet, dont elle lui relie le début des élévations sur les mystères. Avez-vous déjà lu ça? C'est très beau, hein? Les élévations sur les mystères de Bossuet. Il commente des passages des psaumes, du Nouveau Testament, et ce qui l'intéresse beaucoup, c'est les confessions de Saint-Augustin. Le 7 décembre 1913, avant de subir une opération très importante, douloureuse aussi, il se confesse, puis il reçoit la communion. Après avoir lu cette admirable prière, n'est-ce pas, Jésus-Christ, qu'on trouve dans l'imitation de Jésus-Christ, « Mon Seigneur et mon Dieu, prévenez mon âme par les bénédictions de votre douceur, afin que je me puisse approcher de votre grand sacrement avec une dévotion digne de vous. » Oh mon Dieu, si on réussissait toujours ça avant de communier, peut-être qu'on communierait avec plus de ferveur, hein. Quelques mois après, c'est la guerre, 14-18, et Charles Dubos, qui est trop affaibli, qui est en proie déjà à la maladie, qui pendant 25 ans va le faire cruellement souffrir, 25 ans, hein, c'est épouvantable, mais il peut pas partir avec ses amis. Alors il est décidé à servir malgré tout. Il fonde avec son grand ami André Gide, oui André Gide, pour lequel il a une profonde affection, il fonde le foyer franco-belge destiné à l'accueil des réfugiés. Il s'y surmène, beaucoup trop. Alors il éprouve une crise rhumatismale terrible, qui le cloue au lit. Et en peu de temps, ses souffrances physiques vont s'ajouter à des angoisses, à cause des événements, puis il voit tomber ses amis à la guerre, hein, ceux qui lui étaient les plus chers, dont son frère Jean, notamment, qui est tué en 1916. Et la guerre s'achève, et peu après, une grande douleur encore qui frappe Charles Dubos. C'est la mort de sa mère, qui est survenue en 1918. Et par contraste, il a la grande joie quand même, à l'automne suivant, sa femme met au monde une petite fille, qu'il appelle Z2. Puisqu'il appelait sa femme Z, n'est-ce pas? Z2. Et son prénom, c'est Primrose, qui va jouer désormais un rôle considérable dans l'existence de ce ménage des Dubos. Et malheureusement, déjà, les ressources s'amenuisent. Et puis, ce tragique au bouleversement qui ont fait baisser les revenus. Et puis, il y a aussi l'augmentation du coût de la vie. Alors il a fallu quitter le bel appartement de la rue du Tour, près du bois de Boulogne. Et les Dubos vont loger un rue Budet dans la belle île Saint-Louis. Vous connaissez ça, l'île Saint-Louis, j'espère, dans la Seine, là, en plein cœur de Paris. Alors là, Charles Dubos va rester fidèle à l'île Saint-Louis. Et puis, cette petite île merveilleuse en plein cœur de Paris. Et il aime, comme il dit, cette silencieuse oasis où seuls arrivent les appels des sirènes des bateaux. Depuis toujours le message le plus poétique et le plus exaltant. Hein. C'est beau, hein, des sirènes de bateaux. Hein. Et c'est l'influence de Gide ou d'autres amis incrédules entre lesquels Charles Dubos alors vit éloigné de Dieu. Il n'a plus, on le voit quand on lit son journal, que des préoccupations artistiques et littéraires, mais avec énormément d'intelligence. Il s'enthousiasme, chose étrange, pour Maria Chapdelaine, bien oui, et l'inconstante de Gérard Douville. Il relie Adolphe, les liaisons dangereuses, volupté, l'éducation sentimentale. Il porte au nu les peintures de Degas, de Bonnard, de Manet, il a du goût, sans dénier pour cela le charme de Watteau, de Proudhon, de Latour. Il dévore les œuvres de Barrès, de Loti, de Giraudoux, de Proust. Puis il suit assidûment les concerts de musique moderne. Puis il publie des études, puis fait des conférences sur Amiel, sur Bourget, sur Gide, sur Valéry, sur Bergson, qu'il a bien connu, et en même temps que sur les écrivains anglais. C'est un passionné. Il a de longues conversations avec des amis intimes comme Daniel Alévi, Paul Valéry, Jacques Rivière, André Mauroy, Jean Giraudoux, vous voyez que Gabriel Marcel, Jean Paulhan, Roger Martin Dugard, pour ne citer que les principaux, hein. Je vous ai parlé de certains d'entre eux, d'ailleurs. Et de 1922 à 1926, il est en pleine période de production. Il publie celle des études critiques. Puis il donne un véritable enseignement dans les salons de Madame André Mauroy, et même dans le salon de la Duchesse de Trévise, et puis de Guy de Pourtalès aussi. Il parle tour à tour de Tolstoï, de Nietzsche, de Tchekhov, de Byron. Et tout cela, non, ça ne l'amène pas à Dieu. Dieu est absent dans tout ce tourbillon de littérature. Ce n'est que de loin en loin qu'on sent que Charles Dubos ne l'a pas entièrement oublié. Et dès 1922, il a entendu un premier appel. Oh, encore bien lointain. C'est qu'il va à Pontigny, cet ancien monastère du début du XIIe siècle, pour une de ses décades, ça s'appelait des décades, qu'organise Paul Desjardins. C'était très important, hein. Toute l'élite allait là à Pontigny, en dehors de Paris. Puis, les gens qui prenaient part, mais c'était des hommes comme, justement, Rivière, Mauroy, Schlumberger, Jaloux, etc. Il est le principal animateur. Et puis, il entre le soir de son arrivée dans la très belle église du vieux monastère, puis il est littéralement bouleversé par la splendeur de cette église. Alors, il note au sujet de cette visite à l'église de Pontigny, voici ce qu'il écrit. « Cette visite a été de celles qui sont susceptibles de modifier profondément l'être intérieur et peut-être de l'orienter pour fort longtemps. » Et Charles Dubos ajoute, « Il me semble très nettement qu'elle a réveillé en moi certaines portions de ma nature qui avaient besoin d'un symbole concret pour pouvoir sortir de la léthargie. Il me semble assez évident qu'il me demeurera dorénavant sans doute, toujours impossible d'adhérer littéralement au christianisme. Mais ce besoin qui ne fléchit pas en moi, à travers tout, d'une vie religieuse, ne saurait rien trouver qui exprimât plus exactement son essence que cette église cistercienne. » En fait, il est devenu complètement incroyant. Il est presque un peu agacé de la piété persistante de sa femme. Et il écrit à son sujet que la prière porte toujours au-dessus d'elle-même. C'est beau, ça. Et puis, il ne se résigne pas cependant à cette incroyance qu'il ressent. Souvent, l'idée de Dieu le harcèle. Surtout quand on met un enfant au monde, hein. Qui fait cet enfant? Pense-t-on que c'est le père et la mère? C'est évidemment Dieu qui fait de ce cerveau, ce cœur, ses nerfs. Il a une fille, hein. Alors, ça le harcèle. Ce n'est pas sans un véritable regret qu'il se voit obligé de renoncer au thème proposé pour la décade là, de 1925, parce que Paul Desjardins a choisi l'idée de Dieu. Alors, non, il peut pas. Et c'est alors qu'un douloureux événement vient jeter un gros poids dans sa vie. C'est la mort chrétienne de Jacques Rivière, dont je vous ai déjà parlé. J'ai consacré une émission à Jacques Rivière et à sa mort, d'ailleurs, qui est survenue le 14 février de cette année 1925. C'est donc dire que j'ai fait cette émission un 14 février. 8 mois plus tard, il va penser toujours aux disparus. Il va écrire ces lignes bien émouvantes. Personne aujourd'hui ne vit avec plus d'intensité que Jacques Rivière. Personne n'est aussi radicalement soustrait à ce royaume des ombres que si souvent nous constituons ici-bas. Sans nul interrègne, sa vie posthume nous assiège, nous envahit de toutes parts. Il semble qu'elle nous mette aux prises avec quelque insoutenable mystère de l'Église triomphante. Et déjà sans oser encore l'avouer, il envisage, pour lui aussi, l'hypothèse d'un total retour à Dieu. Une page écrite entre-temps, le 1er avril, est très lumineuse à cet égard. Ça nous montre bien ses hésitations. C'est pas facile, hein, se convertir. Il écrit la grande tentation lorsque l'on ne parvient pas à obtenir de soi ne fût-ce qu'un minimum de réduction à l'unité, demeurera toujours la conversion. Et cela est si vrai que moi, qui suis depuis des années en garde contre cet inévitable reniement de l'intellect qu'implique l'acte de se convertir, quant au degré où je le sens depuis quelques mois, je ne suis plus que le lieu de mes états. Cette tentation m'effleure. Et cependant, je voudrais tant, si je suis un jour amené à revenir à une religion définie, que ce fût pour des motifs intérieurs diamétralement opposés. Et là, il écrit de façon magnifique, « Cette reconquête d'une personnalité perdue, je voudrais tant l'obtenir de moi seul, de mon effort non assisté. Certes, non seulement je n'ai rien contre la religion, je suis dans le tréfonds de moi-même le plus religieux des êtres. Je n'ai jamais pu me passer d'une religion personnelle, dont sans doute les formes varièrent, mais dont la nécessité reste chez moi toujours au même degré permanente. Mais je ne puis m'empêcher de trouver inadmissible que ce soit rien que nos faiblesses qui nous ramènent à Dieu, que nous offrions à lui. » L'année 1926 va voir se dérouler les étapes de ce retour à Dieu, qui va se faire en 1927. Il est surchargé de travail, il fait des conférences, il écrit des articles, il dirige plusieurs collections. C'est vraiment un intellectuel de grande valeur. Puis il éprouve un ardent besoin de retraite, de solitude. Ça lui permettrait de se recueillir, hein, de son état de santé avec ça qui fait qu'empirer. Il souffre atrocement. Il est obligé de longues heures de repos où il était accablé d'un sommeil insurmontable. Il était venu avant d'aller en septembre à Pontigny, là où il y a eu cette visite à l'église, là. Il va passer quelques semaines en repos en Savoie, dans le sud de la France donc, et en Alsace. Il espère beaucoup du séjour à Talloire, où il se promet la lecture quotidienne de Saint-François de Sales et de Sainte-Jeanne de Chantal. Mais une atteinte de grippe le terrasse, et à bout de force, incapable de fournir l'effort nécessaire pour réagir, il n'a pu que constater, en éprouvant beaucoup de désespoir, que, comme il écrit, tout en épousant spontanément la pensée chrétienne, il reste, comme il ajoute, tout à fait immobilisé en dehors du christianisme. Les semaines suivantes, à Paris et à Pontigny, il ne cesse de s'analyser. Il souffre de cette anomalie qui fait de lui, comme il dit, tout ensemble le plus religieux et le plus incrédule des hommes. Hein? C'est un peu le cas de beaucoup d'entre nous. Hein? Nous sommes à la fois très religieux, puis bien incrédule, car si nous avions vraiment la foi. Il est inquiet, il s'interroge, puis la réponse est décevante. Il dit, car quand je dis, et j'hésite souvent à le dire, et j'ai tort d'hésiter puisque c'est vrai, quand je dis que je crois en Dieu, je veux dire que je sens Dieu en moi, ce qui peut-être équivaut simplement à ceci que, dans nos meilleurs moments, Ces moments s'inscrivent d'eux-mêmes dans la zone religieuse, et c'est pourquoi, quand je dis cela, je doute encore si j'accomplis un acte de foi véritable. Car l'acte de foi véritable, ne serait-ce pas de pouvoir dire « Je crois en Dieu » quand on ne le sent pas en soi. Et c'est de cela que je ne suis nullement certain d'être capable. Alors il confie à son journal ses tourments. Même il en parle à ses amis. Et c'est ainsi qu'il s'attire un jour de janvier 1927 une riposte d'Isabelle Rivière. « Charlie, c'est qu'au fond vous êtes orgueilleux et vous ne saurez jamais à quel point vous l'êtes. » C'est dur, hein? Mais c'est souvent quand un bon ami, une bonne amie, dure avec nous, nous dit une vérité pénible qui nous blesse, qu'on se réveille. Alors évidemment, Charles Dubos proteste auprès d'Isabelle Rivière, mais il est forcé d'avouer qu'il y a un peu de vrai dans tout cela. Il a beau entendre l'appel de Dieu, il n'arrive pas encore à y répondre. Mais quand même, pour s'y préparer, il songe à s'imposer une certaine ascèse. Il se lève très tôt, il se réfugie, si possible, à jeun, à Saint-Louis en Lille. C'est l'église de l'île Saint-Louis, évidemment, où il habite, pour y méditer. Il ajoute bien qu'il y ait un certain manque de délicatesse à profiter incroyants des asiles des croyants. Mais non, les incroyants peuvent rentrer dans nos églises. Rentrez dans nos églises et venez y méditer. Tous, venez. Puis, il s'oblige à relire quotidiennement la Bible, à se plonger à pic dans son éternel Saint-Augustin, les confessions, etc. Et justement, vient de paraître une traduction nouvelle des soliloques de Saint-Augustin, puis il en fait sa lecture de chevet. Il sent bien que vraiment, il dit-il, il n'y a, pour lui du moins, de catholicisme possible que là. Et les hésitations de Charles Dubos sont maintenant connues de tous. On en parle dans les milieux catholiques, ce qui... chavire un peu l'âme ombrageuse de Dubos qui entend rester maître de ce qui se passe en lui. Le simple fait de savoir qu'il a été l'objet d'une conversation entre Henri Guéron puis l'abbé Altermann, qu'il connaît bien, mais qu'il ne connaît pas encore à ce moment-là, le plonge dans un malaise indéfinissable. Il voit que, comme il dit, que l'on ne peut faire un pas dans la direction des catholiques sans qu'il se penche de façon un peu trop apparente sur le salut de votre âme, sans qu'il couve, pour ainsi dire, votre conversion future. Puis, du côté de sa femme, en revanche, il n'y a pas la moindre pression. Elle le laisse totalement libre. Elle l'aime beaucoup trop pour l'ennuyer. Aujourd'hui, il est question de Charles Dubos, un très grand écrivain. Pouvez-vous demander s'il était vraiment si grand? Mais je vous disais tout à l'heure qu'il avait un journal. Bon, alors, il y a 7 ou 8 tomes de ce journal qui ont été réédités, je pense, il y a quelques années, aux éditions de l'Âge d'Homme. Et puis, il y a un volume aussi qui regroupe l'ensemble des approximations. Approximation, c'est des critiques extrêmement intéressantes. C'est paru, ça, aux éditions Fayard, il y a bien des années, puis il a publié en plus de ça, au cours des années où ça a été réédité, Grandeur et misère de Benjamin Constant, Byron et Le besoin de la fatalité, La comtesse de Noailles ou Le climat du génie, des commentaires... Le dialogue avec André Gide, François Mauriac et le problème du romancier catholique, et son gros Goethe que j'ai, qui est énorme et qui est magnifique et passionnant, un Goethe, c'est peut-être le meilleur Goethe que j'ai lu. Et puis, il y a aussi Qu'est-ce que la littérature, qui est très intéressant, avec des hommages à la fin. Vous voyez comme il était populaire, c'est suivi d'hommages de François Mauriac, de Charles Morgan, de Gabriel Marcel, de Camille Mérand, de Jacques Madaul, de Jean Schlumberger. Et puis, il a écrit surtout un livre qui est très beau, paru il y a 30 ans, « Du spirituel dans l'ordre littéraire ». Puis, il y a quantité d'autres choses qu'il a publiées. Mais un livre qui est paru sur lui il n'y a pas longtemps, c'est « Charles Dubos ou la tentation de l'irréprochable » par Michel Crépu. C'est aux éditions du Félin. un excellent livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. C'est paru il y a quelques années à peine. Charles Dubos, ou la tentation de l'irréprochable, par Michel Crépu. On peut trouver autre chose aussi dans les bibliothèques, comme le choix de texte de Charles Dubos, préfacé par Étienne Gilson aux éditions de La Colombe. Un petit livre. Vous pouvez trouver ça en bibliothèque et le lire, vous aurez un aspect, un panorama de l'œuvre de Charles Dubos. Alors donc, il songe à se convertir. C'est à ce moment que, sur les instances d'Isabelle Rivière, il entre en relation avec l'abbé Alterman, qui va jouer un rôle décisif dans sa conversion. Et il a avec lui de longs entretiens, mais avant de dire le oui définitif, Charles Dubos veut tout peser, car c'est le meilleur de lui-même, dit-il, qu'il veut offrir à Dieu. Puis, il n'arrive pas à sortir de l'état de crise dans lequel il vit. C'est épouvantable la crise qu'il ressent. Il écrit, il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Il écrit ça le 25 avril 1927, c'est au moment de sa conversion. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. C'est contre Dieu que je me cabre avec naturellement le résultat prévu, que tout ensemble, Dieu s'impose dans sa force et me déserte dans sa grâce. Un argument presque sentimental pèse encore sur cet homme sensible. Il écrit, c'est le sentiment que s'il se convertit, bien des êtres qui lui sont à tel point chers le croiront perdu pour eux, ou tout au moins se sentiront comme abandonnés par lui. C'est très vrai, quand on devient vraiment catholique, on perd presque tous ses amis. C'est quelque chose d'épouvantable, la solitude devient effroyable, mais la présence de Dieu y supplie infiniment. Croyez-moi, n'hésitez pas à vous convertir si vous en avez la tentation, c'est une douce tentation. Et ici, il pense peut-être à Proust, à Valéry, à Gide, ses amis, surtout, hein. Et puis, il travaille sur l'œuvre de Gide à ce moment-là. Et puis, il mesure la désespérance de Gide. Il ne peut pas oublier cet aveu terrible de son ami Gide, mais avec un accent d'imploration, hein. C'est Gide qui dit, « Vous sentez bien que je n'approuve pas ma vie. » Gide n'approuvait pas sa propre vie. Et sans avoir encore donné sa pleine adhésion au catholicisme, il a du moins repris maintenant le chemin des églises. Il est particulièrement attiré par la chapelle des bénédictines de la rue Monsieur dans le 16e arrondissement à Paris. Mais c'est disparu, les bénédictines sont disparues, mais il y a encore des bénédictins qui sont là, hein? Et puis dans cette chapelle venaient prier à cette époque beaucoup d'intellectuels catholiques, hein? Et presque chaque dimanche, là, il y goûte la beauté de la liturgie, la beauté des chants, l'élévation des prières. C'est pour lui un baume, hein, à cette espèce de détresse exaltée qu'il ressent. Ça opère dans son âme, il ne sait quelle délicate et curative déchirure. Hein. Est-ce que c'est pas ce qu'on ressent quand on écoute le chant grégorien le matin à Radio Ville-Marie? Ça opère dans nos âmes une déchirure qui est délicate, puis curative, ça nous guérit. Hein. Une fois aussi, en juillet, il assiste à la salle Saint-Cloud, à la messe, au cours de laquelle sa fillette Z2, là, tenant sagement son cierge, offre le pain béni, puis il reçoit de cette cérémonie un choc profond. Il dit, je m'attendais à être ému par elle, mais je ne m'attendais pas à la marée montante d'émotions religieuses, et même cette foi proprement mystique, qui devait, à la fois, si contradictoire que soient les termes à l'aide desquels on s'efforce vainement de rendre les événements intérieurs les plus réels, me submerger et m'édifier dans le sens étymologique, de me construire. Alors, de plus en plus, il étudie la Bible, les évangiles, il en discute avec l'abbé Alterman, qui est un prêtre remarquable, faudrait que je vous en parle lui aussi, qui, avec sa délicatesse et sa bonté, répond sans se lasser à toutes sortes d'objections de Charles Dubos, qui est un grand inquiet. L'abbé Alterman lui rappelle doucement la parole de saint Augustin, il faut nager avec le courant, c'est simple, il faut nager avec le courant, quoi. Le moment décisif est venu, puis le 28 juillet 1927, Charles Dubos dit à l'abbé qu'il viendrait le soir, le lendemain, et il lui a fait promettre d'accepter d'avance celle des deux réponses qu'il aurait alors à lui apporter. Il passe une soirée tragique la veille, de 8h à minuit, il est en proie à un va-et-vient, un tiraillement intérieur vraiment atroce. Se convertir pour un grand intellectuel comme ça, c'est pas facile. Il décide presque de remettre à l'automne sa décision, de réfléchir encore, de travailler davantage, mais le livre d'un de ses amis, J.M. Murray, The Life of Jesus, lui tombe sous la main. Et avant de s'endormir, il lit les chapitres qui lui importent le plus. Après cette lecture, il constate qu'il n'y a pas de parole plus sage et plus profonde que celle de Bossuet quand Bossuet dit « Il faut tenir solidement les deux bouts de la chaîne, même si nous n'arrivons pas à voir le milieu par où l'enchaînement se fait. » Alors sa réponse à l'abbé Alterman, ben, le journal ne nous la donne pas, c'est curieux. Hein? Il y a comme une interruption de 15 jours dans la rédaction du journal, mais on devine ce qu'elle a été quand Charles Dubos écrit le 13 août. Voici ce qu'il écrit. « Que ces 15 jours comprennent ceux qui, du point de vue religieux, furent les plus importants de sa vie. » Ils sont hélas aussi parmi les plus cruels, car c'est l'instant où il doit vendre ses livres, ses plus beaux tableaux pour survivre. Il dit, « Si je ne vends pas, il nous reste en tout et pour tout 100 francs jusqu'au 1er septembre. » C'est rien 100 francs. Hein? Ce choc religieux qui arrive en pleine crise financière ne ramène pas tout de suite la paix dans son âme. Ce n'est que peu à peu que le calme va revenir en lui avec la foi retrouvée. Puis voici Charles Dubos à la fin de novembre 1927. Il mène désormais la vie de piété et de raison qui est devenue la sienne. Il écrit « Calme, méditation intense, mais recueillie et sereine. Ce matin, messe de 8 heures et communion aux bénédictines de la rue Monsieur. Comme chaque matin depuis jeudi, afflux irrésistible de larmes très douces. » C'est ça qu'on appelle le don des larmes dont je vous ai parlé l'autre jour. « N'ayant pas de prix Dieu, j'étais agenouillé sur la pierre. » Et bien qu'arrivé dans un état de fatigue limite, si je puis dire, après la communion, je n'éprouvais nul malaise physique de la position, à genoux comme ça, une force pleine, tout mon être se sentait comme joint. Nul effort, nulle application dans l'action de grâce. Bon, je suis très loin de l'oraison de quiétude, mais je commence à imaginer ce que cela peut vouloir dire. Alors, toujours fidèle à ses recherches, il s'efforce d'analyser ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant en lui. Il est obligé de faire cette constatation. Il écrit « J'ai, si j'ose dire, oublié que je croyais. » C'est assez curieux. Je pense que c'est le cas de bien du monde, ça. « J'ai, si j'ose dire, oublié que je croyais. » Alors, pris par son travail, il lui semble ne plus penser à Dieu que comme... Puis, comme il se le reproche, là, l'abbé Alterman lui répond de ne pas s'en préoccuper. Il ne faut pas s'en faire outre mesure dans ces histoires-là. Il dit par une raison, là, toute brève, par une simple prière au début du travail, il suffit d'offrir à Dieu le travail lui-même. Alors Charles Dubos est arrivé à ce qu'on pourrait dire un revirement total. Il écrit « Ce n'est pas en croyant, mais bien en cessant de croire que je me renierai. Ma foi, oui, c'est le couronnement de tout ce que je pense sur tout, de tout ce que je sens sur tout, de tout ce que je veux, surtout. » Alors Noël le trouve déjà apaisé, puis avant d'aller à la messe de minuit à Saint-Louis-en-Lille, il se prépare à la communion en lisant le sermon prononcé par Bossuet le 25 décembre 1691, après quoi il récite les prières à Saint-Thomas d'Aquin. Vous vous souvenez, on avait ça dans nos missels, qui sont pour lui des prières, l'idéal même de la prière, dans l'absolu de la soumission et de l'abandon à Dieu. L'heure qu'il passe ensuite à sa paroisse va compter parmi une des plus douces qu'il ait vécues. Il est agenouillé auprès de Zed, sa femme. Il est envahi, inondé. Et puis il se sent comme enveloppé d'une épaisseur d'invisible, c'est ce qu'il écrit. Au point que, rentré chez eux, les deux époux, les Dubos, devant leur réveillon, et c'est ce qu'il écrit, restent longtemps silencieux, comme s'il était difficile de revenir de si loin. Puis à partir de ce jour-là, comment suivre jour par jour l'ascension vers la haute piété de cet homme vraiment exceptionnel? Il est surchargé de travail, puis il est brisé par la souffrance. Il ne manque pas sa messe quotidienne quand même. Il y va le plus souvent à 8 heures, parfois beaucoup plus tôt à Notre-Dame. Et de temps à autre, cependant, par crainte de quelque automatisme qui ne vienne se glisser dans cette pratique religieuse, écrit-il, alors il se force à aller à Saint-Louis-en-Lille, à Saint-Gervais, à Saint-Séverin. Saint-Gervais, c'est là où est la communauté hein, des moines de Jérusalem, à Paris, il faut aller voir ça. Saint-Séverin, c'est la grande paroisse liturgique d'autrefois, où rue Monsieur, où il y a les bénédictins, puis il arrive d'assister à la messe de 6h30. très tôt, et les messes étaient le matin. La dernière messe, dans ce temps-là, c'était à peu près 8 heures. Il n'y en avait plus du restant de la journée. Et il passe par des alternatives de ferveur et de sécheresse. Il s'inquiète surtout d'éprouver une difficulté croissante à rentrer dans la vie après la messe matinale. Ça l'arrache tellement. Ça le plonge en Dieu. Alors, il poursuit ses entretiens avec l'abbé Altermann. Et ce prêtre authentique, merveilleux, sait toujours dire les paroles qui ramènent le calme dans l'esprit, puis perpétuellement inquiet chez Charles Dubos. Il faut lire dans son journal, d'ailleurs, l'analyse de ses méditations, le résumé des conversations religieuses qu'il a avec les uns et les autres, l'annotation de toutes les alternatives par lesquelles il passe et des émotions qu'il éprouve. Aucune analyse ne peut donner l'idée de la richesse de ces pages. On y trouve parfois de très belles prières que son inspiration du moment lui dicte. Il y a celle du 2 août 1928. Il demande à Dieu de l'éclairer sur sa difficulté à comprendre le vide qu'il éprouve entre ses heures d'abandon, là au pied du tabernacle, sa rentrée dans la vie. Prière qu'il achève sur cet envolé magnifique que je vous lis. « Faites, Seigneur, que je n'oublie pas votre présence. » Et que ce flot intarissable de contrition et d'action de grâce que vous voulez bien laisser s'épancher en moi soit l'eau qui non seulement purifie, mais qui ravitaille, qui permet de rester fidèle. Seigneur, je suis absurde, je le sais, mais je vous aime et vais vous servir. Servez-vous vous-même de moi, de la manière dont vous préférez que je vous serve. Dieu domine désormais et ne cessera de dominer tout son être. Et c'est Dieu qui l'interroge sans cesse avant d'agir, de penser, de vouloir. Il le proclame lui-même quand le 27 octobre, c'est le jour de son anniversaire, le 27 octobre 1935, il a 53 ans ce jour-là, après avoir remercié le Fils bien-aimé de lui avoir fait comprendre que c'était lui qu'il fallait regarder et que le regarder, c'était aller au Père. Il s'écrit, « Ah, qu'à partir d'aujourd'hui, et assisté par la grâce, je laisse sans plus jamais un retour en arrière, le Christ régner dans ma vie et sur elle. » Alors avant tout, il faut suivre le chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous, et Dubos insiste sur la nécessité d'accomplir d'abord avec lui un acte d'obéissance amoureuse. Et cet acte est lui-même une prière qui n'est ni une demande, écrit-il, ni une action de grâce, mais un accueil à cette lumière qui est toujours lui au fond de nous et dont l'appréhension nous fait entrer dans la volonté de Dieu. Cette assistance divine jusqu'à la fin ne manquera jamais à Charles Dubos, même au pire jour de souffrance qu'il devra vivre en ces dernières années. Charles Dubos devient de plus en plus malade. Il écrit « C'est en mon corps que tout m'est demandé ». Il comprend ce que Dieu veut alors de lui. Puis au mois de mars-avril 1937, donc 2 ans avant sa mort, il va exprimer mieux encore cette résignation chrétienne dans un essai intitulé « De la souffrance physique ». Je ne vous en lis que quelques lignes, oh, 3 lignes. C'est tellement beau. « Qu'importe que je me croie capable ou incapable d'accepter la souffrance, quoi. » La seule chose qui importe, c'est que je crois en vous, Seigneur. C'est sous le signe de la patience que je vais vivre désormais. Et au creux de cette patience, et préserver l'amour, l'adoration, la tendresse à l'égard de Dieu. Et tandis que s'affirme de la sorte sa foi profonde, mais Charles Dubos, malgré toutes les souffrances qui le harcèlent, malgré tous les soucis matériels qui vont pas en diminuant, mais il mène une existence de travail acharné, il publie ses approximations, les extraits d'un journal, son Byron, le dialogue avec André Gide. En janvier 1930, d'ailleurs, a été paru le premier numéro de Vigile, une revue qu'il vient de créer avec Mauriac et l'abbé Altermann. Il faudrait que je vous dise qu'il est aussi à la source lointaine de la collection de la Pléiade, de toute quantité de choses, je ne peux pas tout vous raconter. Il a dû quitter momentanément sa chère île Saint-Louis en plein cœur de Paris, pour Versailles. Il connaît maintenant un rayonnement universel. Il exerce sur tous ceux qui l'approchent ou le lisent une immense influence intellectuelle et morale. Son état physique ne l'empêche pas, en janvier 32, de reprendre chez Madame Riedel un cours sur Goethe, qui est paru en 1949, 10 ans après sa mort, c'est l'édition que j'ai en tous les cas. Mais c'était paru avant, en 32, je pense. Et puis, il collabore à de nombreuses revues étrangères, fait des tournées de conférences en Suisse, en Allemagne. Dans les derniers jours de 1932, il a la joie de se réinstaller dans l'île Saint-Louis. Et puis, ça va rester jusqu'à sa fin, son port d'attache. Il jouit là du voisinage de l'abbé Brémond, pas n'importe qui, hein, qui réside rue Chanoinesse, le grand abbé Henri Brémond. Encore un autre dont il faudrait que je vous parle. Ce sont des personnages fantastiques que l'humanité nous a donnés au sein de l'Église. Il n'a pas cessé, jusque-là, de suivre fidèlement les fameuses décades de Pontigny, mais en septembre 33, il en est revenu épuisé, puis le 15 septembre, une grave hémorragie a encore accru sa faiblesse. Alors, il va falloir se résigner à subir une grave opération en 1935, le 15 janvier. Il semble se remettre après un séjour dans le sud de la France. Il recommence ses cours, puis la publication de ses approximations. Comme vous voyez, il lâche pas, c'est un tenace. Il fait ses conférences quand même, sans avoir la force cependant d'aller cette année-là à Pontigny. Puis l'hiver suivant, le voit se prodiguer auprès de tous ceux qui font appel à lui. Il éprouve une joie toute particulière d'avoir à parler de littérature aux étudiants catholiques qui viennent nombreux l'entendre le soir, les mardis et vendredis, dans la petite bibliothèque du boulevard Saint-Michel. Ce sont des causeries familières, après lesquelles il amène souvent quelques privilégiés, continue à causer à la closerie des Lilas. À la fin de janvier 36, il y a l'affreuse maladie qui reprend avec une force accrue. Et Charles Dubois éprouve d'atroces souffrances, des souffrances qu'il accepte comme une croix, et qu'il analyse dans son essai inséré dans le tome 7 d'approximation. Avec son médecin, il tente d'aller en Suisse trouver un peu de repos. Puis il peut passer l'été à la Selle Saint-Cloud et même partir à l'automne pour les États-Unis, où a été créée à son intention une chaire à l'Université catholique Notre-Dame ou Notre-Dame dans l'Indiana, l'Université des Pères de Sainte-Croix. Et la France n'avait pas su garder pour elle l'enseignement d'un tel penseur. Je vous rappelle que sa mère était anglaise, il pouvait enseigner en anglais. Et ce séjour en Amérique qu'il aimait, car il y trouvait un peu de l'atmosphère anglaise, a amené comme une rémission dans sa maladie. C'est curieux, hein? Il peut croire que sa guérison est complète, comme il l'écrit le 8 décembre, une santé parfaite, presque scandaleuse, chez l'auteur d'un essai intitulé « De la souffrance physique ». Et rentré en France en mai 1938, il y retrouve ses amis. Il passe l'été à la Selle Saint-Cloud, c'est sa maison de campagne. Il y reprend ses habitudes de piété. Et le 14 août, il assistait à la messe de 8 heures à l'église paroissiale. Il évoque l'après-midi la première oraison de ce 10e dimanche après la Pentecôte. Il écrit à ce sujet, « Ah Seigneur, nous savons qu'il vous est agréable que nous continuions à vous prier de multiplier sur nous votre miséricorde. Nous le savons et nous continuerons, mais nous ne savons pas moins qu'en dépit de ces innombrables péchés, offenses et négligences que rappelle la prière de la messe après l'offertoire, votre miséricorde, d'elle-même, ne cesse de se multiplier. De tous vos noms, nous connaissons celui qui est le nom des noms. Dieu est amour. » Et le 3 septembre, il repart avec les siens pour New York. Mais c'est le moment où la tension européenne est à son comble, mais c'est la guerre qui s'annonce, hein? Le grand conflit mondial, la guerre 39-45, qui va éclater l'année suivante, là. Alors l'angoisse de Charles Dubois s'éprouve terriblement. C'est terrible pour lui. À un point où cela ne lui était jamais advenu, même pendant la guerre, dit-il. Et cette angoisse achève de briser son organisme, qui est à bout de force. Il passe en Amérique un terrible hiver, puis quand il revient en France le 14 juin 1939, juste à la veille de la guerre qui va se déclarer au début de septembre, mais ses intimes, en le retrouvant, ne peuvent plus se faire d'illusions. Il voit bien que c'est la fin. À une question que timidement on lui demandait, « Est-ce que c'est comme dans la souffrance physique? » Puis il répond d'une voix brisée, « Oh, c'est pire. » Voyez-vous, tant qu'on peut écrire d'une chose, comme la souffrance, c'est qu'elle vous demeure encore extérieure. Et quelques semaines plus tard, En ce même mois, avant la guerre 39, le 5 août, Charles Dubos, à 56 ans, s'en va, comme il écrit, auprès du Père, vers lequel, jusqu'à la fin, sa prière est toujours montée. C'est un homme de grande prière, de grande foi et de grande intensité. Il n'a jamais cessé de penser que Dieu seul, dans sa vie, était finalement tout. Voici une petite prière. Il y a aujourd'hui 11 ans que vous m'avez appelé à vous, et aujourd'hui, c'est ce 11e anniversaire, par un de ces surcroît de munificence dont votre grâce est si prodigue, je suis en tête à tête avec celle que vous m'avez donnée et qui est l'âme de mon âme. C'est beau. En tête à tête avec l'âme de son âme, et c'est là qu'habite la Trinité.